Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Dixième partie, la Trinité diabolique.
Nous sommes déjà arrivés au chapitre 13, ça avance, voilà, on avance tout simplement. Je voudrais rappeler ce soir que nous avions terminé la fois précédente sur une conclusion tirée du chapitre 12, où nous avions lu tout simplement cette parole « Et il se tint sur le sable de la mer, et le diable se tint sur le sable de la mer. » Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a un mois de cela. Et il s'agissait naturellement de l'adversaire qui était là parmi les peuples et parmi les nations, parce qu'il se prépare quelque chose. Je voudrais simplement vous rappeler que aussi la dernière fois, nous avions longuement parlé que le diable avait été expulsé des lieux célestes. Voilà. Qu'il y a eu un combat dans les sphères célestes et que le diable et toutes ses armées avaient été expulsés, ce qui nous a amené aussi à dire et à préciser toujours dans le chapitre 12, où il y a cette parole « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, vers les hommes, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors on se souvient de tout cela. Et quand la dernière phrase de ce chapitre 12, quand il nous est dit que le diable se tient debout sur le sable de la mer, c'est qu'il attend quelque chose. Il attend et il prépare quelque chose. En tous les cas, c'est ce que nous allons voir ce soir, il attend l'aide d'une triple coalition que nous allons expliciter, ce que l'on appelle la Trinité diabolique. Il y a la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là, nous allons avoir affaire dans le chapitre 13 à la Trinité diabolique qui va apparaître dans tout ce chapitre. Et il s'agit de la bête, il s'agit de l'Antichrist et il s'agit du faux prophète. Alors on va le découvrir. Ça sera un passage tout à fait important de l'étude du livre de l'Apocalypse, que ce chapitre 13. Alors va pas le commenter entièrement, on va en faire qu'une partie. On a dit qu'on avait le temps. Alors on va prendre notre temps et on va commenter la première partie. Le chapitre en question se divise en deux parties distinctes, je les rappelle. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. La première du verset 1 à 10, et la deuxième partie du verset 11 au verset 18. Vous l'avez devant vous, sous vos yeux, dans votre Bible ouverte. Par le mot « bête », il faut entendre un animal féroce, une sorte de fauve terrifiant. C'est ainsi que nous allons aborder la chose, la question. Un autre prophète des temps anciens, qui s'appelle le prophète Daniel, avait vu et décrit, sous l'aspect de grands animaux, si vous vous souvenez de cette lecture du prophète Daniel, la même vision, c'est la même chose. L'explication d'alors, puis vérification de l'histoire, parce que ça s'est vérifié dans les faits, dans l'histoire des hommes, correspondant à l'émergence successive d'empires mondiaux. À l'époque, on pouvait les appeler des empires mondiaux, le monde connu d'alors, sous l'emblème d'un lion qui personnifiait dans un premier temps la Syrie, mais particulièrement Babylone et son grand roi, Nebuchadnezzar. Ensuite, sous les traits d'un autre animal, c'est-à-dire de l'ours, qui représentait les Mèdes et les Perses. Ensuite, le léopard, l'empire grec et son roi, Alexandre le Grand. Et puis, tout cela caractérisant les régimes d'oppression et les conquêtes qu'il y a eu dans l'histoire réelle de l'humanité, finalement dans cette période eh bien là, des grandes conquêtes de l'Antiquité. Tous ces empires étaient marqués par l'absolutisme, par une monarchie aristocratique, si on peut le dire comme cela, mais brutale, enfin, aristocratique et brutale, et également dans certains aspects d'un empire en particulier, c'est-à-dire celui d'Alexandre le Grand, une oligarchie militaire. C'est-à-dire qu'il y avait un déploiement de force qui a fait que bon, ces grands empires eh bien, ont conquis le monde, d'ailleurs. Chose étrange, toutes les puissances qui ont existé ou existent encore se représentent sous l'emblème d'animaux prédateurs, encore aujourd'hui. Hein. Bon, je ferai une exception pour la France, c'est un coq. Voilà, maintenant, l'Angleterre est représentée aussi, je crois que c'est le lion, les États-Unis c'est l'aigle, hein, l'aigle royal, etc., etc. Bon, enfin bon, pour nous on est très modestes, nous les Français, on s'est contenté d'un coq. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui c'est souvent emblème, comme je l'ai dit, le lion, l'aigle, l'ours, le tigre, etc., etc. Jésus, qui a toujours pris la défense des petits et des sans-défense, a eu raison de nous dire dans Matthieu au chapitre 20 cette parole qui nous rappelle que finalement, eh bien, ce sont des puissances humaines qui dirigent le monde. Mais il préviendra finalement, eh bien, ses disciples en disant « Méfiez-vous de ces grands, parce qu'ils vous asservissent et ils dominent sur vous. » Ça, c'est ce qu'il nous est dit, c'est ce que Jésus nous dit. « Sans exception, depuis la plus haute antiquité, les empires jusqu'à nos jours ont toujours eu l'ambition démesurée, extravagante, de dominer le monde et d'étendre leur hégémonie. » C'est une histoire de toujours. Depuis les temps immémoriaux, il y a toujours eu des puissants, des empires, des royaumes qui se sont répandus sur la terre. Et si l'on va encore jusque, eh bien, dans notre temps, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. Décliné sous une idéologie, qu'elle soit capitaliste ou marxiste, ou qu'elle vienne de différents horizons, ou totalitaire, fascisme et tout ce que voudrait. Hein. L'histoire récente est là pour nous le confirmer avec toute la brutalité que cela peut imposer finalement aux hommes. Alors, le but de tout cela, c'est d'imposer une civilisation. Comprenez bien, parce que nous allons y revenir. C'est d'imposer une manière d'être, une manière de vivre, une façon, finalement, eh bien, de dire, eh bien, voilà, c'est nous qui sommes la race supérieure, nous sommes la nation supérieure, et vous devez, finalement, eh bien, vous plier à ce que nous voulons. Parce qu'il n'y a pas meilleur que nous. Donc, il y a naturellement un orgueil éhonté derrière. Et d'ailleurs, vous savez, pour la patrie, la gloire de la patrie, les hommes sont prêts à faire beaucoup de choses. Hein. Alors, aujourd'hui, ça se présente peut-être sous des formes un peu plus humaines que dans le temps. Vous savez, dans le temps, c'était des chocs et des heurts brutaux, frontaux, sanglants. Aujourd'hui, ça n'a pas changé en ce qui concerne le sang. Hein. Mais peut-être que les formes sont plus humaines parce que ça se présente sous le couvert d'aide humanitaire. Ça se présente en impliquant une aide financière, l'économie, toutes sortes de choses. La défense ou la sécurité. On a longtemps parlé d'un certain pays contemporain qui était le gendarme du monde, et qui l'est probablement encore aujourd'hui, mais voilà. Des missions de paix, à travers finalement une approche qui semble pacifique et au besoin des interventions militaires quand les gens ne veulent pas avancer. Quelquefois, il y a le, comment on appelle ça, la carotte et le bâton. Voilà. Quand la carotte ne fait plus son effet, eh bien, on essaie de pousser un peu les choses. Or, l'apôtre Jean, qui écrit le livre de l'Apocalypse, voit dans la révélation, alors pour lui, je dois faire une précision, pour lui, pour l'apôtre Jean qui vivait au 1er siècle, la bête représentait véritablement l'Empire romain, avec à sa tête les Césars. Voilà, tous ces hommes qui conduisaient l'Empire. Mais dans la perspective de notre temps, parce que c'est ça ce qui nous intéresse pour essayer de comprendre, eh bien, Jean voit la révélation d'un empire qui sera sans égal dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu des gros empires, il y a eu des empires, en effet, phénoménaux avant nous. Et même dans notre ère chrétienne depuis 20 siècles, mais le dernier, ça sera vraiment l'apogée, ça sera vraiment le summum, la réunion, la mise en commun de tout ce qui s'est passé avant. Et je peux vous dire que ça représentera quelque chose. Ça sera le dernier empire. Le dernier empire mondial extrêmement puissant, parce qu'il y a les moyens que nos prédécesseurs ou que les siècles avant nous ne connaissaient pas. Un empire irrésistible, un empire invincible, humainement parlant. Cet empire s'appelle la bête. Voilà, dans notre texte, c'est comme ça. C'est un système qui allie la politique et puis bien d'autres choses. La dernière civilisation, et Jean le voit sortir de la mer. Et je dois préciser ou rappeler que nous l'avons vu très souvent dans l'étude de l'Apocalypse, dans la Bible, la mer est l'image des peuples et des nations et toutes leurs agitations. La mer, ça bouge toujours. Donc, il la voit sortir de la mer à travers ces agitations du monde, de l'humanité, ce qu'on appelle des crises, des conflits, des conflagrations, des révolutions. Et Jésus nous en parle dans Matthieu chapitre 24, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, quand vous verrez une nation qui va s'affronter avec une autre nation. » Voilà. Et c'est ce qui se passe. À travers toutes ces incessantes turbulences des nations, et aujourd'hui, est-ce que nous ne pourrions pas parler, ne serait-ce qu'à prendre l'actualité d'aujourd'hui ou de ces derniers jours ou de ces derniers mois, on peut parler que le monde est quand même tout aussi agité. Alors naturellement, l'information nous arrive dans quelques secondes avec Internet, avec tous les moyens modernes, mais on peut dire que ça bouge. C'est sûr que ça bouge. Il nous est dit que la bête, elle monte, c'est-à-dire elle s'élève au-dessus de la confusion générale des peuples, de la confusion générale qui règne. Et on ne peut pas dire que l'ordre règne sur la terre aujourd'hui. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et devant toutes les tentatives d'unité avortée, aujourd'hui, on parle de mondialisation. On veut faire les continents d'abord une union continentale, mais on va vers une union mondiale. Et tout cela, eh bien, c'est très difficile. Et ça se fait, ça se défait à travers des divisions, des rivalités. Et c'est une sorte d'ascension discrète mais silencieuse dont il nous est parlé, dont on n'est pas peut-être toujours conscient, mais ça se fait. Par-delà, eh bien, la masse des peuples. Mais il y a des esprits, il y a des hommes qui sont en train de penser au devenir, de ce que sera le monde dans 20 ans, dans 50 ans. Il y a des projections, il y a des perspectives. Et nous ne savons pas grand-chose, sinon que lorsque les choses sont faites, eh bien, finalement, c'est déjà bien en route. Hein. C'est déjà bien en route. Alors, ça se fait d'une manière silencieuse dans un premier temps, mais c'est une mise en place à travers le truchement de la diplomatie, à travers les traités, à travers les pactes politiques, communautaires et toutes sortes de choses semblables. Ce sont des mots qui sont familiers pour nous aujourd'hui, hein, parce qu'on nous en parle, naturellement. La manière forte viendra un peu plus tard. Pour l'instant, c'est en préparation. Et cette manière forte qui viendra, eh bien, le piège à ce moment-là se refermera parce que ça sera fini. Il n'y aura plus à revenir en arrière, ça sera déjà fait. Ça sera établi, enraciné, consolidé. Alors, nous allons voir maintenant comment est faite la bête. Parce que le descriptif est donné. 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Écoutez bien. Il y a un mélange dans le descriptif qui nous est donné, un mélange de force, les cornes, un mélange d'intelligence, la tête, et de prestige. Voilà, parce que le couronnement, c'est quand même prestigieux. Sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Des blasphèmes, non seulement contre l'humanité, mais des blasphèmes contre le créateur de l'humanité. En d'autres termes, Dieu. Ce dernier mot, le mot blasphème, révèle clairement son origine et son inspiration. Un blasphème ne peut pas venir de Dieu. Les injures ne peuvent pas venir de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. Là, on voit l'inspiration derrière. Et elle s'opposera manifestement à Dieu, cette bête, et à son royaume. Donc, il s'agit d'un système d'opposition au christianisme, d'opposition à la foi, un système que nous pourrions tout simplement dire antichrétien, d'opposition au christianisme, à l'évangile, à Christ. Le maître auquel obéit cette bête est identifié. Nous en avons parlé longuement la dernière fois. Il s'agit de Satan, le diable, le dragon rouge. C'est comme ça que les choses sont présentées, le dragon. Regardons de plus près. Il est question de diadème. Il s'agit naturellement, la pensée simple, de couronnement, de prétention à la royauté. Un diadème est posé sur la tête des rois, des princes, de ceux qui sont élevés en dignité, naturellement. Ça, on l'a compris. Vous remarquerez que les diadèmes sont posés sur les cornes et non sur la tête. Petite nuance. Ce qui signifie qu'elle exerce son pouvoir par la force. Et je rappelle que dans la Bible, les cornes sont toujours l'emblème, le signe emblématique de la force. Quand vous voyez un animal avec des cornes, il vaut mieux pas rester devant. C'est solide, hein ? Donc, c'est ainsi. Et non de l'intelligence. Ou s'il y a intelligence, ça serait une intelligence pervertie, perfide, diabolique, satanique, souillée. Parce que la tête est le signe de la pensée, enfin, le siège de la pensée. Mais là, ce ne sera pas pour aller dans le bon sens, ça sera aller pour le mal et la mort. On comprend mieux que son pouvoir se fera par la violence, puisque nous avons parlé de cornes, la destruction et l'anéantissement de tout ce qui résistera à sa volonté. Nous vivons aujourd'hui dans une démocratie, avec des lois. Mais nous pouvons imaginer que ce gouvernement mondial, ce système plutôt, parce que, nuance, ce système mondial imposera une volonté, une dictature, un dictat inflexible. Alors ceux qui voudront essayer de résister, ils seront éliminés, hein, il n'y a rien à faire. Ça comme ça. Les blasphèmes en question dont nous avons parlé il y a un instant, davantage que de simples injures, un blasphème c'est encore une dimension autre, proférer ces blasphèmes représentent des doctrines et des enseignements, des courants de pensée pernicieux, subtils, qui finalement saperont les fondements de la saine connaissance de Dieu. Ça ne viendra pas comme ça, et vous vous souvenez que quand Jésus nous prévient de sa seconde venue, il mettra en première recommandation, il dira ceci, gardez-vous d'être séduits. Avant la guerre, avant la famine, avant les pestes, avant tout ce que nous dit finalement les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les trois premiers évangiles. La séduction. Donc, c'est ça l'injure. Et ça ne se voit pas, ça ne se discerne pas peut-être au premier abord, mais ça sera véritablement eh bien, ce que nous pouvons appeler des blasphèmes. La fausse doctrine, les doctrines sectaires, anti-Dieu, anti-Christ, ce sont des doctrines qui finalement eh bien, s'introduisent comme de l'eau qui s'infiltre, vous savez. Et les gens, au départ, eh bien, ils disent « c'est pas grave, ça ressemble, mais c'est la Bible, mais c'est Jésus-Christ, mais c'est le salut ». Puis après, on s'aperçoit que quelque part, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. À travers des théologies, ce qu'on appellera des théologies. des philosophies, des idéologies humanistes, parce que ce n'est plus Dieu qui sera, Dieu aura complètement disparu, ça sera l'homme qui se fera Dieu à ce moment-là. Enfin, l'illusion d'être un dieu. Vous serez comme des dieux, dit le serpent à Ève dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Des doctrines religieuses, ou tout bonnement occultes, purement et simplement occultes, des spiritualités vraiment nauséabondes, malsaines. Écoutez, on est prévenu. L'apôtre Paul, qui a quand même la vision de Dieu, écrira ceci à ce jeune et futur pasteur qui s'appelle Timothée. Il écrira ceci dans dans ce qu'on appelle les pastorales d'ailleurs, hein, les livres destinés à l'enseignement. Eh bien, au chapitre 4, il est dit mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, et c'est les jours dont nous parlons, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque dans leur de la flétrissure. Ça nous laisse réfléchir dans les temps dans lesquels on est. Ça nous laisse réfléchir. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu une information qui passait à la télévision et puis partout. Les pouvoirs publics s'émeuvent parce qu'il y a actuellement de plus en plus de sectes. Et des sectes apocalyptiques. Des sectes qui, ont prévu finalement la fin du monde pour la fin 2012, Noël 2012. Et on comprend que les pouvoirs publics s'inquiètent de tout cela. Ce que les pouvoirs publics pourraient peut-être ajouter à leur compréhension et leur connaissance, c'est de bien lire l'Écriture et d'avoir une bonne interprétation de l'Écriture. Parce que faut pas mélanger tout. Il y a véritablement une saine et bonne doctrine de la foi chrétienne, et puis il y en a toutes sortes de trafiquants et toutes sortes de manipulateurs à côté. Alors peut-être qu'ils savent faire la différence. Alors ça, c'est ce qui nous est dit, expressément des esprits qui viendront. Et dans une complémentarité d'informations, toujours Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 4 et 3, il est dit ceci, c'est la deuxième à Timothée, au verset « Car il viendra un temps » où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, la vérité en Dieu. Car ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ce sont des gourous et ce sont des manipulateurs, des sectaires. Détournant l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Et les gens se prêteront à écouter n'importe quelle histoire, n'importe quelle légende. Parce que ça leur fera plaisir, tout simplement. Maintenant, nous allons passer à quelque chose d'autre. À quoi ressemble cette bête? Elle est semblable d'abord à un léopard. Alors, un léopard, on n'en a pas par chez nous. On les voit en photo. L'animal qui est le champion de la rapidité, de la souplesse et de l'agilité. Quand on a regardé des reportages d'une façon ou d'une autre, on s'aperçoit que c'est un animal qui est très leste. Oui. Il peut partir de zéro à monter à je ne sais pas combien de kilomètres heure, et sur autoroute, il vous laisse derrière. Le léopard. Après avoir épié sa proie, en un instant, le léopard fond sur sa victime et la terrasse. Tout de suite. Le dernier empire mondial se singularisera par une prodigieuse rapidité d'action, ce que l'on appelle déjà en matière de stratégie la guerre éclair. Ouais. Et vous savez, on a les moyens aujourd'hui. Quand on voit avec, ne serait-ce que les moyens d'aviation, vous savez, ça arrive très vite. Les interventions, n'importe où, en n'importe quelle condition, ce que l'on peut dire des opérations commando surprise. Aujourd'hui, on n'a même pas le temps de se protéger, on n'a même pas le temps de se cacher. Ça va extrêmement vite. La technique moderne et la communication satellitaire permet de surveiller tout ou en partie du monde. Et vous savez, notre monde, même si nous nous apercevons, il y a des yeux partout, dans tous les sens, avec ce que nous envoyons dans l'espace. le ciel, sous la mer, quand on voit que certaines nations ont créé un avion invisible. Je crois que c'est le F-16, le F-17. C'est un avion furtif, on appelle cela comme ça. Alors, c'est assez impressionnant tout cela. Il nous est dit que donc, il est semblable à un léopard, donc rapidité, on retient ça. Le dernier gouvernement ou le dernier système mondial dominateur, il nous est dit que ses pieds sont comme ceux d'un ours. Alors, à la vélocité extraordinaire du léopard, il y a maintenant la férocité qui ne lâche ou relâche jamais sa prise. Ça, c'est l'ours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'ours est un animal puissant et pesant. D'ailleurs, on le voit bien. C'est un gros bonhomme qui se dandine, mais il ne faut pas tomber sous sa patte. Parce qu'il est quand même... derrière ces aspects de bonhomie, c'est autre chose. Il écrase sous son poids sa victime. Il l'étouffe et il la piétine. Tout simplement. Et le système oppressif que représente la bête sera celui d'un rouleau compresseur, si vous voulez, qui passera sur les peuples pour les assujettir par l'écrasement à la fois militaire, disciplinaire, à travers des lois, à travers la fiscalité. On va l'oublier, hein ? À travers l'étouffement ou la confiscation des libertés, la normalisation impérative. Vous savez, il y en a d'autres qui ont essayé, hein ? Ils ne sont pas arrivés, fort heureusement. Que les peuples ont secoué le joug. Mais dans le dernier, la phase finale de l'humanité, là, tout le monde sera sous suffocation. Ça sera l'ours. Ça sera la chape de plomb. Ça sera véritablement l'étouffoir. Il nous est dit que la bête aura une gueule comme celle d'un lion. Vous savez que dans un lion, sa force se trouve dans les mâchoires. C'est pas quand il ouvre la gueule, c'est quand il la referme que ça fait mal. Ça, c'est sûr. Ben oui, parce qu'il a des dents, puis des belles dents. Hein. Et ses dents, sa force est là dans la mâchoire, elle broie. Et il a aussi une arme redoutable, c'est son rugissement, qui est aussi impressionnant. Il jette la terreur sur sa victime et la subjugue. Et là, vous avez vu quelquefois, les gazelles, hein, elles ne bougent plus, comme ça. Pierre, l'apôtre Pierre nous parle justement du lion rugissant. Et donc, il faut nous méfier parce que il veille, il guette et il épie, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Il est bien dit que notre âme, c'est la foi. Hein. Alors, voici quelques images qui laissent deviner ce que sera l'Empire, le dernier empire superpuissant, qui n'aura qu'à faire démonstration. Ou, si vous voulez un autre mot, à faire étalage dans toute la terre par les moyens que nous connaissons aujourd'hui, de ce qu'il est capable de faire taire toute velléité, toute résistance, et de soustraire à son et tous ceux qui voudraient se soustraire à son influence. Personne n'échappera à cause de son rugissement. Ça fera du bruit. Hein. Alors on va poser une question maintenant. S'agit-il que d'un savant système élaboré par l'homme? La réponse est non. Ça ne sera pas uniquement le produit ou le fruit de l'intelligence humaine. Il nous est dit dans notre texte, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ça sera quelque chose qui n'aura jamais été vu. Ou qui aura peut-être été entrevu, mais qui n'aura jamais réussi jusqu'à maintenant. Mais là, ça va faillir réussir, parce que ça ne réussira pas. Mais néanmoins, ça sera quelque chose de redoutable. Des mains, une intelligence d'homme, mais la force d'inspiration vient du monde des ténèbres. Ça viendra d'en haut. Et ça viendra par la connexion des hommes, soi-disant super intelligents, qui chercheront une puissance non pas sur la terre parce qu'elle est limitée, mais qui chercheront par la voie de l'occultisme, de la magie, de toutes sortes de ce monde des ténèbres, de ce monde infernal, eh bien, une autre dimension pour dominer, pour régner, pour détruire, pour captiver. Il est parlé de puissance, il est parlé de trône et d'autorité diabolique conférée par un pacte aussi aveugle que dangereux. Et dans Luc, Eh bien, cela nous est montré dans la deuxième tentation que Jésus a eu à affronter dans le désert de 40 jours par le diable. « Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toute cette richesse, toute cette puissance et toute cette gloire de ces royaumes que tu vois, mais si tu te prosternes et tu m'adores. » Et là, je peux vous dire qu'il y en a qui ont compris ce que voulait dire le diable. À défaut de vouloir entendre Dieu, ils ont compris ce que voulait dire le diable. Et ils se sont prosternés, ils ont fait un pacte, ils ont fait une alliance avec le diable. Et le diable leur a donné. Il y a des choses qui nous étonnent dans la puissance de ce monde. Hein. On se dit, mais comment ces hommes sont-ils arrivés là? Comment ont-ils pu faire ceci et cela? Mais l'inspiration, ce n'est pas une inspiration humaine, c'est une inspiration diabolique et ténébreuse. Ils ont bien compris ce que ça voulait dire. Jésus a dit non à la proposition de l'adversaire. Mais il y a bien des hommes aujourd'hui, de tous les temps, parce que ça fait partie de toutes ces ramifications de confréries, de sociétés, de syndicats humains, de tout ce que je peux en ajouter, hein. Ça suffit comme ça, mais qui font que, quelque part, eh bien, on sait très bien faire. Et là, si on parle de culte, on pourra parler de culte occulte, ou de messe, mais pas blanche, hein. Elles sont noires. Et vous savez, c'est plus fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Les liens de transmission se trouveraient être des fausses doctrines. Parce que derrière une pensée, il y a toujours une doctrine. Vantant les idéaux d'un monde parfait. Et on y arrive. Hein, proposant une civilisation parvenue à l'âge d'or. Où l'homme serait lui-même Dieu et s'adorant en tant que tel. Vous avez déjà entendu parler du New Age ou du Nouvel Âge? Eh bien, c'est ça. Et on n'en a jamais tant entendu parler que maintenant. Tout simplement, vous serez comme des dieux, dit toujours le serpent dans le jardin d'Éden. Alors on va y arriver à ça, à un moment donné. Enfin, presque y arriver. Je voudrais vous rassurer. Le grand maître invisible de cette gigantesque manipulation sera Satan en personne, et le monde, ayant répudié la révélation biblique et son message de salut, croira être sauvé par lui-même, convaincu d'être enfin parvenu à l'apogée de l'humanité. On viendra nous dire un jour, mais nous allons vaincre la mort. La guerre n'existera plus. Les hommes seront tous frères, et ceci et cela. Écoutez bien ce que nous dit Paul dans Thessaloniciens. Quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, une ruine soudaine viendra. Vous pouvez relire, hein, Thessaloniciens. C'est Paul qui dit cela. Le verset 3. On a pris notre temps. Hein. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. De quel événement est-il question dans le verset que nous venons de lire? Il nous est parlé d'une tête qui est frappée à mort, c'est-à-dire l'une des sources de sa puissance va être quasiment anéantie à un moment ou à un autre. Un événement qui semble avoir mis en péril, je dis bien entre guillemets, provisoirement, le prestige de cet empire. Alors, il faut le voir sur le temps, là, maintenant. C'est pas seulement dans les derniers temps, mais dans une histoire beaucoup plus longue. Parce que finalement, je l'ai dit et je le répète, hein, le dernier empire sera en quelque sorte le fruit, la composition de tous les empires qui se seront succédés depuis l'Antiquité. Chacun avec un particularisme, chacun avec une puissance, avec quelque chose de plus, mais toujours dans le mal, naturellement. Alors, le prestige de cet empire sera frappé à un moment donné. Certains commentateurs ou théologiens ont pensé qu'il pouvait s'agir de la disparition puis de la résurgence de l'Empire romain. Vous savez que c'était le quatrième empire. Quatrième grand empire mondial. On peut le prendre en considération si nous croyons et si nous pensons que nous, pays occidentaux, je dis bien pays occidentaux, les pays occidentaux c'est aussi l'Europe, mais c'est aussi tous ceux qui sont en Amérique, hein, issus de la culture. Et nous avons quelque chose en commun, c'est que quand même, cet empire romain il y a 20 siècles, a quand même marqué profondément la civilisation de notre race, en quelque sorte. de notre monde occidental, par sa culture, par sa politique, par ses lois, par toutes sortes de choses. Et ça, c'est quelque chose. En tant que société occidentale, nous avons été influencés, nous sommes encore influencés, dans beaucoup de choses, qui a toujours été prédominante depuis des siècles, mais jamais aussi puissante qu'aujourd'hui. Naturellement, on ne se promène plus comme les Romains se promenaient, habillés comme ils étaient, et puis voilà. Mais néanmoins, dans l'esprit, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui nous reste de tout cela, ne serait-ce que notre langue. Hein, nos langues occidentales, et particulièrement le monde latin. Nous, les latins, entre autres.